Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au Venezuela. Un Venezuela au bord du gouffre, frappé par une pénurie de produits alimentaires, de médicaments, une très forte inflation, un climat de grande violence et d'insécurité, un exode massif de la population. Plus +1 200 000 Vénézuéliens ont fui en Colombie voisine ces trois dernières années. Quelle sortie de crise pour le Venezuela alors que 7 habitants sur 10 souhaitent que Nicolas Maduro quitte le pouvoir. Le pays est régionalement, voire internationalement, isolé. Comment comprendre l'échec des gouvernances populistes au Venezuela et en Amérique latine en général? Quel rôle pour la communauté internationale face à la crise vénézuélienne? Regard avec nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère, Célia Himmelfarb, économiste et directrice du Master Amérique latine à Sciences Po au Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Jeannette Abel, politologue et chercheur à l'IHEL, l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Olianski, chercheur rattaché à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur la crise vénézuélienne? Comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation que connaît le pays aujourd'hui? Exode, pénurie, violence. Les manifestations se succèdent contre le régime malgré une répression brutale. La crise dure depuis longtemps, elle s'est accélérée depuis le début du mois d'avril. Elle est triple, cette crise économique, crise politique et institutionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de printemps vénézuélien, Célia Himmelfarb?
Écoutez, il y a plusieurs aspects. D'abord, ce qui nous frappe le plus, c'est qu'on voit une Venezuela complètement, c'est une crise profonde, avec deux volets, le volet économique, le volet politique, et notamment l'échec des politiques populistes du point de vue économique et aussi politique. Au niveau économique, pour vous donner une idée de cet échec, c'est qu'avant l'année 1999, lorsque Hugo Chavez assume le pouvoir, il y avait un PIB par habitant supérieur qu'aujourd'hui. Ça veut dire que le PIB, à l'époque, était supérieur à 8 500 $ par habitant. Aujourd'hui, il est inférieur. Une croissance estimée pour l'année 2017, négative de 6%. Une inflation prévue pour cette année 2017, 1 660 % de taux d'inflation, donc c'est déjà une hyperinflation pour nous. Un solde budgétaire par PIB des -26% et presque une situation de défaut économique de la dette, donc externe. Montée de l'instabilité politique aussi, gestion opaque et discrétionnaire des revenus pétroliers, pénurie de devises et des biens et retard de paiement dans les commerces courants. Au niveau de la population, sachez qu'il y a une situation de crise humanitaire où les Vénézuéliens, à l'heure actuelle, ne arrivent pas non plus à consommer les calories nécessaires et qu'il y a une cessation dans la fourniture de médicaments pour les problèmes des cancers, le problème des diabètes, etc. Une situation semblable qu'en Argentine en 2001, lorsqu'il y a une rupture, si vous voulez, entre la production, la consommation, l'offre, la demande, etc. Donc, du point de vue économique, c'est une catastrophe. Et bien entendu, un modèle politique du populisme politique de gauche en Amérique latine, et c'est l'exemple qui rentre dans ces cadres d'échec d'un populisme politique aussi.
Alors, on développera un petit peu tout ça. Jean-Jacques Olianski, oui. Jeannette Abel en studio. Célia Himmelfarb a détaillé les points essentiels économiques pour bien nous montrer comment les choses ont changé depuis 1999, donc date de l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez. Mais finalement, comment est-ce que l'économie vénézuélienne en est arrivée là où elle en est aujourd'hui? On peut rappeler le fait essentiel, le pays producteur de pétrole. Alors, c'est vrai que sous les années de Chavez, le prix du baril a particulièrement augmenté, mais enfin, les caisses ont pu se remplir. Comment expliquer ce que le Venezuela vit aujourd'hui, Jean-Jacques Olianski?
Moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui arrive au Venezuela est l'exacerbation de ce qui arrive dans tous les pays latino-américains qui, ces dernières années, ont tout misé sur des économies extractivistes. Je vous disais tout à l'heure que je reviens du Chili. Le Chili est en croissance zéro depuis le début de l'année parce que le cuivre se vend mal. Il y a eu également des grandes grèves dans les mines de cuivre chiliennes. Donc la situation n'est pas très brillante. Le Brésil, pour reprendre la définition d'une économie populiste, ne fonctionnait pas bien. Il y a eu un coup d'État parlementaire et l'équipe actuelle n'a pas réussi à redresser la situation. Donc c'est vrai que le Brésil vivait de... C'est la ferme du monde, donc il vendait beaucoup de soja à la Chine, du fer également, donc la situation n'est pas bonne. Idem au Mexique, où un rapport vient de nous dire que l'un des effets de la crise pétrolière que vit également le Mexique, c'est l'exacerbation de la délinquance liée à la drogue et des assassinats. On retrouve en Équateur également, où la croissance est négative, en Argentine également. Le Venezuela est un point d'exacerbation, mais n'est pas en lui-même caractéristique d'une situation totalement isolée. On ferait une erreur d'approche d'en faire un cas à part, une situation à part. Mmh. On retrouve les mêmes mécaniques, les mêmes calculs d'économie politique qui ont été faites par tous les gouvernements. Bon, en disant, nos produits se vendent bien. On a même assisté au Brésil à une reprimarisation de l'économie. La Chine a été là, comme dans d'autres parties du monde, comme en Afrique, la locomotive de cette montée des prix des matières premières énergétiques et agricoles. La Chine achète moins, et donc l'Amérique latine ne va pas très fort.
Alors, les pays que vous évoquez, Jean-Jacques Orlianski, le Mexique, le Brésil, le Chili, c'est vrai que quand on doit les comparer au Venezuela, il me semble que la situation au Venezuela est largement plus critique. Est-ce qu'on peut, Jeannette Abel, imaginer que le Venezuela augure ce qui pourrait se passer ailleurs ?
Ben, écoutez, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Jacques Kourlianski. Il n'y a pas une singularité, une exceptionnalité du Venezuela. Si vous regardez, j'élargirais même sur d'autres continents, l'Algérie, l'Angola, etc., sont effectivement eux aussi, ils payent le prix de quoi ? Ils payent le prix d'une économie pétrolière rentière, autrement dit d'une économie dans laquelle... non seulement une économie extractiviste, mais une économie qui a connu des prix du pétrole qui, en l'occurrence, pour le Venezuela, ont atteint parfois $150 le baril, qui sont aujourd'hui entre $40 et $50 le baril. Et vous imaginez, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que quand 80 ou 90% de vos exportations dépendent du pétrole et de ce prix-là, et que vous passez de 150 ou 130 ou 120 à 40-50... Voilà, il y a un effondrement économique évident. Alors la question qui se pose, et c'est ces économies pétrolières, ces économies rentières qui sont génératrices dans tous les cas de corruption. Quand on dit après corruption, il faut ajouter trafic de drogue. Et si on regardait corruption, je disais l'Algérie, l'Angola, etc., ben on pourrait... Bon, et Jean-Jacques Kourlianski donnait d'autres exemples. Donc, à ce moment-là, la question qui se pose est pourquoi on n'a pas anticipé sur cette situation. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas changé plutôt de modèle, sachant que le Venezuela est le premier, dispose des premières réserves de pétrole au monde, avant même l'Arabie Saoudite. Donc, cette question-là est une question compliquée quand même. Sous Chavez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a redistribué cette rente pétrolière aux plus pauvres. La pauvreté a diminué dans des proportions absolument spectaculaires, reconnu par toutes les agences de l'ONU. Mais évidemment, ça s'est fait cela au détriment de quoi ? Et d'autre part, il a fait bénéficier de ses revenus des pays, notamment les pays des Caraïbes, Cuba, etc. Il a fait bénéficier de ses réserves pétrolières des pays à des prix extrêmement préférentiels.
Il vendait le pétrole à des conditions, à ses voisins.
Voilà. Alors, moyennant quoi, il n'a pas réinvesti, modernisé l'industrie pétrolière ce faisant, et il n'a pas diversifié, parce que sur le court terme, eh bien, il a continué à utiliser cette rente et à perpétuer de cette façon-là la dépendance du pays à l'égard de cette rente. Et dire que par ailleurs il fallait organiser la transition de cette économie rentière vers une économie plus diversifiée, développer l'agriculture, etc., c'est vrai. Et donc, on peut considérer que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait, oui. Mais en même temps, il faut du temps pour faire ça et il faut des appuis sociaux et politiques pour le faire. Alors, effectivement, on peut critiquer la présidence Chavez pour ne l'avoir pas fait à temps, au moment où les prix du pétrole, du baril de pétrole étaient très élevés. Maduro arrive après la mort de Chavez dans des conditions beaucoup plus difficiles, ne sous-estimons pas quand même la difficulté qu'il y a à organiser une diversification qui demande du temps, des moyens et des appuis sociaux et politiques. Et pour terminer, Jean-Jacques Courlion, ce qu'il signalait, mais enfin, non seulement les prix du pétrole se sont effondrés, mais la Chine développe un modèle économique maintenant différent du premier, donc importe a moins besoin d'importer ces minerais, ce pétrole, qu'elle ne le faisait auparavant, et en plus le dollar monte. Donc il y a au moins trois facteurs qui contribuent à accélérer la crise plus grave au Venezuela, parce que la situation y est, du point de vue de la dépendance du pétrole, plus grave qu'ailleurs.
La Chine, donc, qui connaît une croissance moindre que celle qu'elle a connue ces dernières années, et les Chinois, on pourra peut-être développer, qui, vu l'état du Venezuela aujourd'hui, ne veulent plus prêter sans garantie. Donc, c'est, on ne prête qu'aux riches et pas plus que les banques régionales, comme la Corporation Andine de Développement ou la Banque Interaméricaine de Développement. Célia Imelfarb, j'ai cette question finalement. Maduro, est-ce qu'il est davantage victime de la conjoncture ou tout de même, est-ce qu'on peut parler d'erreurs qu'il aurait faites depuis son arrivée au pouvoir et en particulier de se croire peut-être un nouveau Chavez.
C'est intéressant votre question. Non, Maduro n'est pas victime du tout. Il suit, si vous voulez, une politique qui était déjà mise en marche depuis 1999. La chute de matières premières, du prix de matières premières, précède le décès de Hugo Chavez. Le modèle économique, la gouvernance économique précède Maduro. La suite, c'est qu'il n'a aucun charisme. Il est braqué au niveau de provoquer presque une situation de guerre civile. Et donc, il n'est pas du tout victime, il est actif, mais il hérite d'une situation aussi, bien sûr. Je voudrais dire quelque chose concernant ce que Jeannette Abel disait et Jean-Jacques Kourlianski sur la singularité ou pas. Une chose, c'est certes, l'Angola, l'Algérie, le Venezuela sont dans des types de modèles semblables, des rentes pétrolières, corruption et réduction des politiques sociales, effectivement. Mais il y a une singularité vénézuélienne, c'est comment on gère la gouvernance face à ces crise des rentes pétrolières, vous voyez, ou des rentes des matières premières. Les Venezuela, à l'heure actuelle, par cette violence politique et cette corruption, etc., même s'il y a des corruptions dans les autres pays cités, par Jeannette Abel, bien sûr, et elle gère très mal cette crise. Elle le gère très mal parce que ne veut pas faire des élections anticipées avant l'année 2018, parce que la communauté internationale est en train aussi de contester la violence et le non-respect des droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, les dénonciations de non-respect des droits de l'homme par Amnesty, Reporters sans frontières, Right Watch, etc., sont assez impressionnantes. Donc, on ne voit pas l'équivalent, si vous voulez, dans les autres pays, qui peut avoir une certaine violence politique, mais là, comme disait Jean-Jacques Kourlianski, c'est l'exacerbation, bien sûr. Les Venezuela rentrent dans un modèle général des pays pétroliers et des chutes de prix des matières premières, mais avant Maduro, il s'est mis en place une certaine gouvernance qui n'a jamais prévu diversifier la production, industrialiser le Venezuela et sortir d'une économie des rentes. Parce qu'il y a 3-4 paliers dans un populisme économique, et vous le savez tous. Et d'abord, on profite du prix élevé des matières premières. On commence de faire des politiques sociales, on redistribue beaucoup, beaucoup de revenus. Ensuite, les prix des matières premières chutent. Et la chute des matières premières, je disais, c'est bien avant Maduro, donc assume le pouvoir en 2013. Et quatrième étape, c'est puisque les prix des matières premières chutent et une mauvaise gouvernance et une politique très idéologique, très politique, très, je dirais, qui ne tient pas compte des conditions démocratiques qui se déroulent dans les pays, aucune cohésion sociale non plus. Donc, à ce moment-là, la quatrième étape, c'est le chaos, la pénurie, l'austérité, l'inflation, etc., etc. Donc, on sait très bien comment les quatre étapes de ces populismes économiques se mettent en place. Les capitaux fuient, mais les citoyens ne peuvent pas fuir cette situation. Et qui, à l'heure actuelle, peut maintenir une situation? Je pense que la Chine, par les swaps, la politique des prêts. Le Venezuela dépend de la Chine, dépend de la Russie, dépend de l'Iran. Les trois pays ont des actifs financiers dans le Venezuela. Donc, c'est maintenu sous perfusion. Plus l'armée cubaine qui est en train d'aider l'armée vénézuélienne, etc. Donc, c'est un contexte de gouvernance très singulière.
Alors, si finalement, alors on va développer hein, sur la question de l'armée, peut-être davantage dans la deuxième partie de l'émission, il nous reste 5 minutes pour cette première partie. Finalement, quand on décrit le Venezuela comme un État mafieux, corrompu, failli, Jean-Jacques Kourlianski, on n'est pas loin de la vérité.
Je voudrais revenir sur la singularité, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que Maduro, effectivement, a poursuivi la politique de Chavez, qui a poursuivi la politique de ses prédécesseurs. Il faut pas oublier que la création de l'OPEP, c'est pas Chavez, c'est Carlos Andrés Pérez, et qu'en 1989, à l'occasion d'une crise pétrolière, il s'est trouvé dans la même situation que se trouve Maduro. Absolument. L'armée a tiré, il y a eu des centaines de morts, et le prix du pétrole a continué à baisser, et il y a eu des élections, donc c'est ce qui a permis l'arrivée au pouvoir de Chavez. D'autre part, la singularité dans l'exacerbation de la crise, on la trouve aussi au Brésil, où l'opposition brésilienne a, par un artifice constitutionnel, renversé le gouvernement d'une façon qui est assez peu démocratique. Et le Brésil, qui donne des leçons de démocratie au Venezuela, se trouve pourtant pas dans une situation d'exemplarité, au contraire, avec tous les effets sur la délinquance et autres que l'on constate à Rio, tout autant qu'à Caracas. Moi je maintiens mon analyse sur la globalité. Là, en revanche, sur l'aspect politique, effectivement, il n'y a pas deux façons de régler les crises. Soit c'est un coup d'État, comme au Brésil, soit des coups d'État militaires, comme il y a quelques années en Amérique latine. C'est plus difficile aujourd'hui. Donc, il y a des procédures comme au Honduras, au Paraguay, ou donc au Brésil, comme j'évoquais tout à l'heure. Il est possible que la situation ne soit pas tout à fait tranchée, ni du côté de l'opposition, ni du côté du pouvoir chaviste, ce qui explique les atermoiements actuels, qui ne peuvent d'ailleurs que faire pourrir un peu plus la situation, parce qu'il ne peut y avoir de solution que soit par la voie du dialogue et le respect du calendrier électoral, soit des solutions qui ne peuvent aboutir qu'à une exacerbation de la violence et de l'instabilité.
Alors, la question qui se pose, c'est celle de la stratégie de Maduro, hein, Jeannette Abel. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie. L'opposition vénézuélienne, on peut même rappeler qu'elle a reconquis, elle est devenue majoritaire au Parlement en décembre 2015. Donc, elle a regagné du terrain, mais Maduro cherche à reprendre de façon tout à fait autoritaire le contrôle sur par un biais détourné, Jeannette Abel.
Oui, deux remarques. Je partage de nouveau la réflexion de Jean-Jacques Kourlianski. Maduro a commis une très grave erreur au mois de décembre et ensuite une grave erreur politique. D'une part parce que je pense qu'il aurait pu imiter l'exemple de Rafael Correa en Équateur, qui lui a compris qu'à un moment donné, il fallait céder la place. Et en tous les cas, a proposé à l'élection présidentielle équatorienne quelqu'un qui partage ses grandes options politiques et stratégiques, qui s'appelle Lénine Moreno, qui a été élu.
Voltaire. Hein? Voltaire, Lénine Voltaire.
Lénine Voltaire Moreno, oui, qui a été élu dans d'excellentes conditions. Bon, Maduro n'a pas fait la même chose, et en plus, il a à un moment donné voulu ôter ses prérogatives à l'Assemblée nationale, qui est majoritairement contrôlée par l'opposition. Et il a reculé ensuite, il a dû reculer, faire marche arrière complètement. Un dernier mot, éventuellement on le développera tout à l'heure, mais l'opposition, faites attention, il ne faut pas parler de cette opposition, de la table d'unité démocratique, la MUD, comme elle s'appelle en espagnol, comme si elle était unifiée, c'est tout l'inverse, comme si elle avait un programme politique commun, ce qui est absolument pas le cas, comme si elle était une alternative, ce qu'on sait qui n'est pas le cas non plus. Et je ferai quelques remarques sur le populisme. Avec le directeur de mon institut, je critique maintenant l'usage qui est fait de ce pseudo-concept qui ne veut, à la limite maintenant, qui est un mot valise, qui ne veut plus rien dire.
On y met beaucoup de choses. Géopolitique, voilà. Nous retrouvons nos invités Jeannette Abel, Jean-Jacques Kourlianski et Célia Himmelfarb dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Venezuela. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère. Célia Imelfarb, économiste et directrice du Master Amérique Latine à Sciences Po Grenoble. En studio à Paris, Jeannette Abel, politologue et chercheur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur rattaché à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Célia Imelfarb, vous souhaitiez revenir sur ce qu'on évoquait dans la première partie de l'émission sur la singularité du Venezuela.
Oui, bien sûr. Parce qu'on analysait l'Amérique latine actuelle et on voit qu'il y a des soucis au Chili, bien entendu, mais il y a au Chili une plus grande instabilité politique. On a vu le cas de l'Argentine aussi, il y a eu des élections en décembre 2015 et il y a eu une alternance, quoi. Donc la situation des guerres civiles ne s'est pas prononcée. Bien sûr, c'est une société très clivée, mais il n'y a pas de guerre civile. Et au Brésil, bien entendu, il y a eu la nomination de Temer avec toutes les conséquences démocratiques qui s'impliquent. Mais il y a une singularité vénézuélienne. Comment cette crise est gérée par l'armée vénézuélienne. Et ça, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler.
Absolument. Alors justement, l'armée. Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolas Maduro, était un militaire. Ce qu'on note, c'est que Maduro protège l'armée depuis son arrivée au pouvoir. Il s'est entouré de généraux, il a procédé à de nombreuses promotions. Il y a même davantage de généraux au Venezuela qu'il n'y en a aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'avenir de Maduro tient davantage à l'armée qu'au peuple vénézuélien ? Jean-Jacques Kourlianski.
De fait, dans les situations de crise, les corps de sécurité, policiers ou militaires, peuvent apparaître comme l'ultime recours. Alors, il est certain que Hugo Chavez était issu du milieu militaire, qu'il a épuré, après la tentative de coup d'État d'une partie de cette armée avec l'opposition en 2002, il a épuré les forces armées et il les a associées à la gestion du pays. Donc il y a des militaires au gouvernement, il y a des militaires qui occupent des responsabilités dans l'administration civile, dans les entreprises publiques. Dans tous les scénarios de sortie de crise qu'on peut imaginer, une solution à l'égyptienne, je dirais, dans laquelle l'armée vénézuélienne, qui effectivement, le ministre la défense a une position qui a été confortée par Nicolas Maduro. Mmh. Donc on constate que les tribunaux militaires procèdent à des mises en examen de manifestants qui ont été contestés d'ailleurs par une femme très courageuse, la procureure générale de la République qui avait été nommée par Hugo Chavez, qu'on ne peut pas donc soupçonner de partialité, qui a déjà été à l'origine de la suspension des décisions qui avaient été prises par le tribunal suprême de lever l'immunité des parlementaires, de se substituer au pouvoir législatif. Donc là, il a également fait un rappel à l'ordre qui met le doigt effectivement sur la place grandissante qu'occupe le militaire dans la vie du pays. Moi, ce qui est que je trouve assez surprenant, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement, enfin le président, ne savent pas très bien comment tout à la fois concilier une sortie qui pourrait être une ouverture, soit de dialogue, soit électorale arrangée, comme cette constituante qui ressemble à une constituante comme celle du traité européen, ou une solution qui serait plus radicale. Et c'est cette absence de choix qui est un élément d'approfondissement de la crise, parce que l'opposition, comme le disait Jeannette Abel, est effectivement très divisée. Mais la population qui vit une situation de pénurie pérenne, constante, continue, est de plus en plus exaspérée. Évidemment, il y a la soupape de sécurité, vous le disiez tout à l'heure, du départ. Donc plus d'un million ou 1,2 million, c'est pas très bien.
Les Vénézuéliens qui sont partis mais en Colombie seulement, voisine, mais ailleurs.
Pas seulement, il y en a au Pérou, il y en a au Chili. La ville de Manaus au Brésil, qui est reliée par route au Venezuela, fait face à un afflux et s'est déclarée en situation d'urgence et fait appel au gouvernement fédéral. Donc le Venezuela en soi, la crise en elle-même est devenue un élément d'instabilité régionale.
Et finalement, cette crise, plus elle dure, Jeannette Abel, plus l'armée, d'une certaine manière, se renforce. On a bien compris les intérêts partagés de l'armée avec le régime, beaucoup de militaires qui profitent largement des règles chaotiques de Maduro, et en particulier cette armée qui est en charge du business lucratif de distribution de nourriture, c'est une vraie recette pour les abus. Donc plus la crise dure, plus l'armée se renforce.
Oui, il faudrait différencier, quand on parle de l'armée en général, je pense que les officiers supérieurs, l'état-major, etc., enfin les cadres hein, militaires, sont bénéficiaires de cette situation. L'armée a en charge une bonne partie de la gestion économique du pays. D'ailleurs, en Amérique latine, ça n'est pas exceptionnel. Il y a longtemps, ça avait été le cas d'ailleurs au Pérou, c'est le cas à Cuba, par exemple, également, mais dans d'autres pays. Mais par contre, les simples soldats sont dans une situation beaucoup plus difficile parce qu'ils vivent, comme tous les autres Vénézuéliens, les difficultés considérables de la vie quotidienne aujourd'hui. Et donc, je pense d'ailleurs qu'il y a dans l'opposition, mais qui n'est pas du tout unie, de certains secteurs de cette opposition, la tentative de justement diviser cette armée, d'en rallier certains secteurs, alors que le ministre de la Défense, Padrino López, représente, lui, la hiérarchie militaire. Donc, une situation très compliquée, dans laquelle l'armée est une véritable puissance politique aussi aujourd'hui, mais quand même qui n'est pas la seule, parce que le parti de Chavez aujourd'hui reste influent, mais lui aussi est profondément divisé. Et Jean-Jacques Kurlianski se référait à Luisa Ortega, qui a permis de revenir en arrière justement sur les décrets qui annulaient pratiquement les prérogatives de l'Assemblée nationale. Et elle n'est pas la seule à avoir critiqué cela, parce qu'un ancien ministre de l'Intérieur, le général Torres, qui était ministre de l'Intérieur jusqu'en 2013-2014, a également pris des positions plus que nuancée, même critique également.
Donc un nombre croissant de chavistes qui s'opposent aujourd'hui au gouvernement de Maduro. Concernant l'armée et ces divisions là aussi qui commencent à se faire jour, on peut citer cet exemple de trois lieutenants qui en avril ont posté une vidéo disant qu'ils rejetaient Maduro. Ils ont depuis pris le chemin de l'exil en Colombie. Célia Imelfarb, est-ce qu'on peut imaginer un véritable affrontement entre les divers camps aujourd'hui au Venezuela?
Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Et vu que les deux camps sont divisés en quelque sorte, mais il y a des manifestations quotidiennes, il y a beaucoup de morts déjà autour.
Une quarantaine.
Une quarantaine de personnes, c'est très grave. Hein. J'attire l'attention, c'est sur la notion d'alternance politique. Chavez était élu en 1999, réélu en 2000, réélu en 2006, réélu en 2012 et Maduro est très mal élu en 2013. Ça veut dire que c'était l'épuisement d'un cycle politique déjà, si vous voulez. Donc l'alternance politique ne rentre pas, si vous voulez, comme dans les habitudes d'un modèle politique, donc au Venezuela, et c'est là que c'est un point très critique, tout en parlant des démocraties participatives, etc., etc., le langage qui était aussi pour l'Alliance bolivarienne. Et donc, à mon avis, il faut qu'il y ait une alternance politique. Les élections sont en 2018, mais là, on est en situation, comme on disait, exacerbée, critique, etc. On souhaite pas, bien entendu, comme expliqué juste des titres, Jean-Jacques Kurlianski, qui est un coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État type Brésil en 64, Argentine 76, Chili 73, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait une médiation très forte, très importante pour sortir de cette crise, si vous voulez, et qu'il puisse avoir une alternance politique assez rapidement, peut-être bien avant 2018.
Alors justement, pour aller plus loin, quel rôle finalement pour la communauté internationale? On peut souligner cet isolement régional et international du Venezuela aujourd'hui. Les pays des Caraïbes qui bénéficiaient, on l'a mentionné dans la première partie de l'émission, du pétrole vénézuélien à prix d'amis, eh bien ces pays, ils ont commencé à lâcher le Venezuela. Caracas a par ailleurs annoncé son intention de quitter l'Organisation des États américains. Alors c'est vrai que c'est une procédure, d'abord elle est inédite, mais qui ensuite prendra du temps, elle prendra 2 ans. Et au-delà, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et le Paraguay ont condamné l'exacerbation de la violence. Bref, le gouvernement vénézuélien aujourd'hui, c'est un gouvernement plutôt isolé. Qui a de l'ascendant aujourd'hui sur le Venezuela et qui pourrait influer sur une attitude à venir du président Maduro?
Un petit correctif, quand je parlais de coup d'État, je pensais de coup d'État de l'armée vénézuélienne, pas de l'opposition. Je me référais au modèle égyptien en disant que l'armée vénézuélienne dans le système, quoi, une relève de Maduro par un militaire. C'était parmi les hypothèses possibles.
Sur qui a de l'ascendance sur
Il y a eu, on a pensé à une certaine époque que le Vatican, le pape, oui, compte tenu le secrétaire d'État, le cardinal Paolin avait été nonce apostolique à Caracas et qu'il avait manifestement des bonnes relations avec tout le monde, opposition comme gouvernement. Mais cette médiation n'a pas donné les résultats attendus. D'une part, parce que le Vatican a considéré que le gouvernement Maduro essayait plutôt de gagner du temps, et d'autre part, parce que la conférence épiscopale vénézuélienne n'était pas vraiment très enthousiaste. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il y a de vrai, c'est qu'on voit effectivement, il y a des changements politiques en Amérique latine. Le contexte aujourd'hui n'est plus celui qu'il était il y a 4 ou 5 ans. Donc vous avez cité toute une série de pays, il faudrait citer aussi l'Uruguay. Donc il y a des pays qui sont, disons, d'orientation de centre-gauche, l'Uruguay, le Chili, qui se retrouvent en train d'exercer des pressions sur le Venezuela, parce que le problème n'est pas celui de la sympathie politique plus ou moins grande que l'on peut avoir.
On n'en est plus là.
Le problème, c'est celui de préserver ce qu'il a été si difficile d'acquérir en Amérique latine, le rétablissement et le respect de la démocratie, ce qui veut dire le respect de l'alternance. Et alors, quand on voit effectivement le décret qui a été pris 1er mai par le président Maduro en vue de proposer comme cadre de solution pour le dialogue de paix la création d'une constituante, qui pose d'ailleurs problème pour les chavistes purs, qui considèrent que la constitution telle qu'elle a été adoptée, il n'y a pas de raison de la modifier, et que le dialogue peut se dérouler dans d'autres conditions. Mais quand on regarde comment va être élue cette constituante, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de flou et que la représentativité effective des constituants est prête à discussion. Le point 5 du décret précise que le peuple pourra désigner par vote direct 500 constituants et que sur ces 500 constituants, de 200 à 250 seraient élus par des bases. Donc des bases non précisées. Ça ressemble beaucoup à une constituante d'experts ou corporatistes. Et alors, ce qui peut expliquer le refus de rentrer dans la constituante de l'opposition, il y a un article 9 qui précise que cette assemblée s'imposerait ou imposerait son autorité à toutes les autres institutions de l'État, donc à l'assemblée élue législative en décembre 2015. Et donc on comprend que dans ces conditions-là, l'opposition soit réticente. Pour revenir à votre question, moi je pense que l'inquiétude démocratique permet de comprendre les critiques qui sont émises par un certain nombre de pays d'Amérique latine, mais il y a aussi le souhait de ne pas souffrir de façon indéfinie des effets collatéraux de la crise économique au Venezuela, ayant absorbé des migrants de plus en plus nombreux, alors que l'ensemble des pays de la région connaissent eux-mêmes beaucoup de difficultés. Donc il y a une grande nervosité, y compris d'ailleurs en Colombie, où on constate que le processus de paix colombien n'est pas très bien assuré. À un moment où le président Santos est au plus bas dans les sondages, il doit gérer plusieurs centaines de milliers de réfugiés vénézuéliens. Une occupation du territoire colombien pendant quelques jours par une centaine de soldats vénézuéliens qui ont planté leur drapeau sur la frontière de la Roca. Le président Santos n'a pas voulu faire du bruit, mais manifestement, il y a eu des pressions très fortes qui ont conduit ces soldats à rebrousser chemin. On n'a pas su très bien Pour quelle raison.
Mais là tout de même, sur l'urgence qu'il y a à régler la situation aujourd'hui au Venezuela, puisqu'on évoquait le rôle de la communauté internationale, Jeannette Hamel, les États-Unis.
Écoutez, les États-Unis ont changé quand même de tactique ou de stratégie, comme on voudra l'appeler, et la menace, je crois pas effectivement que ce soit un coup d'état militaire comme il pouvait y en avoir dans le passé, mais c'est de jouer sur la crise à long terme et la déstabilisation, mais en évitant quand même une crise ouverte, alors avec des masses de réfugiés, et surtout en faisant très attention à un élément dont on ne parle pas suffisamment, c'est que Citgo, qui est la filiale de PVDSA, hein, de l'entreprise pétrolière américaine, vénézuélienne, pas VDSA, au pétrole vénézuélien SA. Bon, cette filiale qui a de très nombreuses raffineries, etc., aux États-Unis, la situation du Venezuela inquiète beaucoup l'administration américaine, l'administration Trump, parce que l'endettement du Venezuela à l'égard de la Chine pourrait, à terme, faire craindre que ces filiales basculent, et on ne sait pas très bien comment, mais éventuellement avec une prédominance chinoise. Donc, il y a de la part de l'administration américaine à la fois une certaine prudence, mais aussi quand même une politique de déstabilisation aussi. Mais le problème pour l'administration américaine et le problème plus général de l'issue à la crise au Venezuela, c'est une opposition qui, elle non plus, n'a pas de programme de sortie de crise. Hein. On ne voit pas du tout comment, ni cette opposition sur le court terme, peut proposer une solution à cette situation qu'on évoquait au début, dans laquelle, de toute manière, aujourd'hui, avec les prix du pétrole, l'économie s'est effondrée et on ne va pas reconstruire, repartir, améliorer tout cela par un coup de baguette magique auprès de la population. Donc le dialogue a échoué avec l'opposition, malgré les propositions du pape, hein, de François. L'opposition elle-même n'est pas du tout unifiée. Alors là, il y a 18 partis politiques qui ont répondu à la proposition de constituante, enfin de nouvelles élections, etc., de Maduro, en se rendant à la réunion qu'il avait convoquée. Les autres, évidemment, non. Il y a les manifestations de rue, y compris avec un solde terrible en matière de blessés et de morts. Pour l'instant, on est dans une situation de pré-guerre civile et il n'y a pas beaucoup de solutions politiques à cette crise dans l'immédiat. Hein, ni d'un côté, ni de l'autre, je dirais, ce qui est d'une certaine façon effectivement assez préoccupant.
Alors, Célia Imelfarb, vous partagez ce pessimisme de Jeannette Abel ? Pessimisme ou réalisme,
non,
mais...
Non, je pense, oui, je pense qu'il est très réaliste, effectivement. Qui peut intervenir dans l'essence de la médiation? Bon, je pense que Jean-Jacques Orlinski a raison. Pour une médiation, il faut, on a vu par rapport à Cuba, que le Vatican voulait, Georgetown University est intervenu, les jésuites américains qui ont pu convaincre Barack Obama, et Monseigneur Ortega, donc à Cuba. Donc, on n'est pas du tout dans ces cas de figure, et les composantes ne veulent pas de ces dialogues. Ensuite, bien sûr, grande division politique. Je pense à quelque chose qui est du genre la pression ou le dialogue via les puissances qui, à l'heure actuelle, interviennent au Venezuela au niveau économique. Je pense à la Chine. Je crois que c'est un dialogue très important entre l'Europe et la Chine ou aussi les États-Unis, d'une certaine manière, mais c'est une autre paire de manches, peuvent dialoguer avec la Chine parce que la Chine finance à l'heure actuelle par des swaps, par des prêts, etc., des prêts conditionnels finalement. C'est-à-dire que ils puissent, eux, dialoguer de la même manière qu'on passe un petit peu par la Chine pour dialoguer avec la Corée du Nord. Ce sont des cas différents, mais on peut trouver des puissances qui sont favorables au Venezuela et qui ont aidé le Venezuela. Je ne pense pas à Poutine, à l'heure actuelle, on ne va pas pouvoir dialoguer avec lui pour intervenir par rapport au Venezuela, mais je pense plutôt à la Chine. Et aussi, comme Jean-Jacques Orlinski disait à juste titre, des gouvernements des centres-gauche qui peuvent aussi dialoguer avec Maduro, etc., l'armée vénézuélienne, pour qu'il y ait une transition la moins violente possible, parce que la population, et c'est ça qui est terrible, la population souffre énormément, et on revient à la notion des crises humanitaires que j'adhère complètement. Une population qui a la moitié des calories par jour, qui n'y a plus de place pour être hospitalisée, qui est en sous-nutrition, et qui est un pays complètement dollarisé, et la population n'accède pas à la monnaie, le dollar. Une inflation de 1660%. Et donc, il faut que la communauté internationale prenne conscience. Je pense que la situation, à un moment donné, on élaborait la théorie de Kouchner, cher à Kouchner, l'ingérence internationale. Il faut que les organismes internationaux ou les pays qui interviennent, et l'Europe aussi, peuvent avoir un dialogue. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Comment la communauté internationale peut se saisir de ces problèmes dramatiques du Venezuela à l'heure actuelle?
Appel à un rôle actif de la communauté internationale. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Célia Imelfarb, qui était en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère, Célia Imelfarb, qui est économiste et directrice du Master Amérique Latine à Sciences Po Grenoble, Jeannette Abel, politologue et chercheur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, et Jean-Jacques Orlinski, chercheur rattaché à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales. National et stratégique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Julien Magouarou. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'Iran dans la perspective des prochaines élections présidentielles du 19.